Vous êtes sur RTL.
12h30, 13h30,
en direct du Salon de l'Agriculture,
le journal inattendu de Nicolas Chabanne avec Vincent Parisot sur RTL.
Bonjour Nicolas Chabanne.
Bonjour Vincent.
Et merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de ce journal inattendu et assez inhabituel, c'est vrai, puisque réalisé en direct du Salon de l'Agriculture. Nous sommes sur le stand d'RTL dans le hall 2-2 sur le stand des fruits et légumes frais. Et d'ailleurs, vous pouvez bien sûr venir nous faire un petit coucou, vous êtes déjà nombreux, vous pouvez passer nous voir, n'hésitez pas. En tout cas, Nicolas Chabanne, si vous êtes ici dans votre univers, hein, car après les fraises, petits producteurs, les légumes gueule cassée, on le sait, vous avez créé une marque de lait équitable, c'est qui le patron? Une vraie réussite qui permet de rémunérer les producteurs à la hauteur de leur travail, de leurs investissements. C'est évidemment une question centrale, essentielle aujourd'hui pour l'agriculture française. Alors on va parler de cette aventure, des éleveurs bien évidemment, et puis de l'avenir de la profession d'agriculture. Vous avez invité Édouard Bergeon, le réalisateur du film événement Au nom de la terre. Énorme succès, plus de 2 millions de spectateurs en France. Film avec notamment Guillaume Canet. Et puis nous recevrons Gaëtan Comte, c'est un jeune garçon qui, après avoir vu le film, eh bien, a changé d'avis et il désire maintenant reprendre l'exploitation de son père dans l'Allier. Voilà en gros le programme. On va parler de vous, bien sûr, avec vos musiques, vos extraits de films. Et puis on va surtout profiter de notre présence ici au salon pour saluer ce monde de la terre qui vous est et qui nous est très cher. Mais tout d'abord, salon ou pas, cette émission commence toujours ainsi. Avant les infos, il faut vous tirer le portrait, Nicolas Chabanne.
Bon, merci Vincent. Donc c'est un moment un peu compliqué puisqu'on est tellement collectif dans cette aventure que ramener un autoportrait, vous allez voir, j'ai fait un petit peu au début puis après j'élargis.
Oui.
Je m'appelle Nicolas Chabanne, j'ai 50 ans, je suis le papa de 3 enfants, Clara, Léo et Mathéo. Je vis au pied du Mont Ventoux, avec ma chère Martina qui est là, dans ma chère Provence. Je monte à Paris, comme on dit chez nous, parce que je m'occupe d'une initiative collective qui s'appelle C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est une marque qui a été créée par nous, les consommateurs, pour venir en aide aux producteurs. 3 ans après ses débuts, c'est un rêve éveillé, une aventure collective incroyable. Finalement, une histoire portée par une seule envie, changer les choses en mieux. Je salue tous ces gens qui nous écoutent, qui sont des consommateurs, acteurs, partout et qui ont fait le succès de cette aventure. Je les salue parce que je ne suis pas tout seul assis sur cette chaise. Nous sommes 14 millions en France à vous répondre. Je sais que vous auriez pu inviter n'importe lequel de ces acteurs.
14 millions, c'est le nombre de clients, enfin le nombre de personnes qui ont acheté le lait.
Voilà, il n'y a pas de pub à la télé, il n'y a pas de commerciaux. Ouais. Et on nous a dit récemment, c'est un organisme officiel qui nous a dit, vous êtes 14,1 millions d'acheteurs en France, un Français sur 5.
Ouais.
Et pour finir, effectivement, 14 millions, vous voyez, vous avez la chaise la plus solide du monde, puisqu'ils sont tous, je crois, aussi un peu avec moi aujourd'hui. Mais on fait tout ça parce qu'on veut que les producteurs soient soutenus. Il faut les soutenir, il faut les rassurer. Ils font les produits d'aujourd'hui qui nous nourrissent. Ils feront demain, on le verra, les produits de nos enfants. Et finalement, c'est notre avenir et un avenir, ça se défend. Voilà, merci pour votre invitation.
Eh bien, c'est de tout cela et d'un peu plus, et aussi de vous, dont on va parler jusqu'à 13h30 pour ce journal inattendu de Nicolas Chabanne, qui commence évidemment par l'actualité de ce samedi 22 février. L'actualité, elle se déroule en direct sous nos yeux, donc ici même, porte de Versailles, pour ce 57e Salon de l'Agriculture. D'ailleurs, on vous attend ici dans le hall 2-2, au stand des fruits et légumes. Emmanuel Macron est dans les murs. Le président est d'ailleurs entré dans le vif du sujet. Dès son arrivée face à des agriculteurs inquiets de leur avenir, au cœur du débat, les pesticides, la PAC, les retraites. Alors on va vous faire vivre comme si vous y étiez l'ouverture de ce salon et les premières heures du président dans les allées. Dans l'actualité également, Fessenheim, le jour d'après, le premier des deux réacteurs de la centrale s'est arrêté définitivement la nuit dernière. Victoire pour les antinucléaires, mais hérésie pour les salariés, les habitants de cette commune du Haut-Rhin dont les élus continuent de se mobiliser. L'Italie face au coronavirus, un deuxième décès a été enregistré ce matin, quelques heures dans le pays après l'annonce d'un premier. Une trentaine de contaminations ont été annoncées également. Le sport avec l'espoir d'un gros coup pour l'équipe de France de rugby cet après-midi face au Pays de Galles. Les Bleus vont chercher une troisième victoire à Cardiff. Cardiff où ils ne se sont pas imposés depuis 10 ans. Le foot, Lyon s'est donné un peu d'air en allant battre Metz hier soir. Nice et Brest ont fait match nul. L'OM accueille Nantes à 17h30. 4 autres rencontres dans le multiplex ce soir. RTL, le multiplex RTL, le Parisien, aujourd'hui en France. Et puis alors le temps, Valérie Quintin, on se croirait au printemps.
Oui, alors pas partout quand même. Ah c'est bon. Vrai que les températures ont monté, ça picote un peu par endroits, et notamment près de la Manche où il y a en a eu pas mal de nuages qui sont arrivés, qui vont rester là tout l'après-midi entre la pointe bretonne et remontant vers le Nord-Pas-de-Calais. Il y a 2-3 gouttes de pluie très localisées dans les Ardennes ou encore sur le Finistère. C'est vraiment très peu de choses et les vents ont commencé à se renforcer près des côtes. On a des rafales de 70 km/h entre Cherbourg et Dunkerque et forcément ces nuages vont avancer un petit peu. Ils vont glisser vers l'Île-de-France, vers la Champagne ou encore vers les Pays de Loire cet après-midi pour tous les autres. Et effectivement, tout va bien. C'est du grand ciel bleu. Il y a même plus de mistral dans le midi. C'est dire si tout va bien. Et les températures sont très douces, comprises entre 11 et 18 degrés de Verdun à Bastia, 13 sur Nancy, 14 à Rennes et Paris, 15 à Lyon et Toulouse et 17 à Bordeaux et Clermont-Ferrand.
Alors dès maintenant, vous pouvez aller vous promener dans les, allées du salon parce qu'à 13h, c'est vous, Nicolas Chaban, qui serez Monsieur Météo.
Le journal inattendu sur RTL.
Mais l'actualité est également sur les routes pour ce grand chassé croisé des vacances d'hiver. Pourquoi ? Parce que c'est la fin des congés pour la zone C, c'est le début pour la zone A et c'est la deuxième semaine pour la zone B. Résultat, vous l'avez compris, circulation très chargée, notamment en Rhône-Alpes, sur la route des stations de ski. Petite photo prise sur l'A43 à l'île d'Abo avec Nerissa et Mani.
Difficile de trouver une place sur l'aire d'autoroute de l'île d'Abo à l'est de Lyon où je me trouve, car sur l'A43 en direction de la Savoie, le trafic est toujours compliqué. Avec un temps de parcours éloquent, 3h35 pour relier Albertville depuis Lyon contre 1h30 habituellement. Julia vient d'Angers, elle a roulé de nuit pour éviter les bouchons, mais c'est loupé.
Non, il y a plus de monde cette année parce que comme il y a les trois zones, ça fait partie des vacances. On sait que le samedi c'est sur la route et que le dimanche on est sur les pistes.
Sur l'aire d'autoroute, beaucoup de familles. Avec le soleil et 12 degrés au thermomètre, les enfants ont retiré leur veste de ski. Carole est avec ses petits-enfants.
J'ai un petit garçon, un petit fils qui a 1 an et donc c'est la pause biberon.
Qu'est-ce que tu vas faire dès que tu vas arriver?
Je vais lancer de la neige sur papa.
Dans la voiture, certains rêvent déjà de la neige.
Ouais, l'objectif, c'est dès qu'on arrive, on prend le matériel, on skie, quoi.
Je vais pouvoir apprendre le snowboard et j'espère ne pas trop tomber pour qu'à la fin de la semaine, je puisse réussir quelques virages.
Il faudra encore patienter cet après-midi pour atteindre les pistes puisqu'on compte au moins 35 km de bouchons entre Lyon et Chambéry sur la 43.
Voilà, donc patience et aussi prudence évidemment sur les routes. Merci Nerissa et Mani. Ce journal inattendu se déroule donc en direct du Salon de l'Agriculture. On est vraiment très heureux de votre présence. On vous salue. Merci d'être là devant le stand RTL dans le hall 2-2, le pavillon 2-2, le stand des fruits et légumes frais. Il y a déjà beaucoup de monde dans les allées. Jacques Serret, vous avez pu d'ailleurs assister au pas des premiers visiteurs dès l'ouverture à 9h ce matin. Et comme toujours, eh bien on est frappé par les sourires, les yeux ronds. Et l'émerveillement des petits comme des grands.
Oui, les yeux grands ouverts.
C'est de sacrés bestiaux, c'est impressionnant, hein. J'en avais jamais vu comme ça. Là.
Et smartphone en main pour prendre des dizaines de photos, les visiteurs se pressent pour admirer ce taureau de race partenaise.
C'est joli à voir, on ne s'imagine pas que c'est si énorme que ça, au pré, voilà.
Face à l'animal de 1300 kg, Marguerite Savour, elle a fait spécialement le déplacement depuis Dunkerque.
J'adore, ils sont magnifiques. Hein. C'est un cadeau du Papa Noël. C'était mon rêve depuis des années, donc voilà. Parce que j'aime beaucoup la campagne, j'ai grandi un peu là-dedans, donc voilà. C'est un retour aux sources.
Un peu plus loin, c'est l'effet idéal dans les allées du Hall 1. Enfants, parents et grands-parents posent aux côtés de cette charolaise égérie de ce salon 2020.
On est passé la voir, dire bonjour. Elle est très calme, elle est très jolie, elle est bien avec son bébé à côté.
Un petit veau de 2 mois, prénommé Roi des Prés, qui, auprès des plus jeunes, volerait presque la vedette à sa mère.
Reportage signé Jacques Serret, et chaque année c'est la même histoire, l'émerveillement, on le disait. Vous étiez venu au salon étant enfant vous-même, Nicolas Chaban?
Ouais, à plusieurs reprises. Alors moi je suis du Vaucluse, donc on a l'habitude plutôt de les voir en liberté. Ouais. Mais on sait que c'est très important aussi pour les gens plus urbains, ouais, de pouvoir se rendre compte de ce qu'est
un animal,
et surtout rencontrer les producteurs, ouais, leur parler directement.
Ouais. Alors il y en a un qui a rencontré les producteurs dès ce matin, c'est Emmanuel Macron. Il est arrivé avant l'ouverture au public, hein, de retour de Bruxelles, après un sommet budgétaire, on le sait, sans accord, notamment sur le maintien de l'enveloppe de la PAC, dont il a fait une priorité. Donc, d'entrée, hein, il est entré dans le vif du sujet face à des représentants des syndicats agricoles qui lui ont tout de suite fait part de leurs inquiétudes, Julien Faudra.
Oui, le chef de l'État mis au défi dès son arrivée, une sorte d'introduction à tous les débats qui l'attendaient dans la journée. Un comité d'accueil d'une vingtaine d'agriculteurs syndicalistes est très remonté.
Il y a des gens qui se posent des questions à savoir comment ils vont vivre. Entendez la colère du monde agricole, monsieur le président. Entendez-le. C'est pas non seulement cette semaine qu'il faut l'écouter, mais c'est tout le temps. Entendez-la. Autrement, je suis désolé, il va y avoir une cassure entre vous et nous, et j'en suis désolé.
Je sais ce que vous dites et je le partage. Je n'écoute pas et ne m'occupe pas du monde agricole uniquement la semaine du salon. Hein.
Mais j'espère, et monsieur le président.
Le gilet jaune Éric Drouet sorti manu militari par la sécurité ultra présente de l'Élysée. Les agents ont été sifflés, une petite bousculade s'en est suivie. Drouet ne rencontrera pas Emmanuel Macron, mais le chef de l'État a tout de même répondu à une femme se présentant comme gilet jaune et mécontente de la réforme des retraites.
Regardez, vous avez tout le monde dans la rue. Mais vous avez du monde dans la rue.
Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue. Je suis
mais
très
venez,
sensible.
Venez dans la rue.
Alors moi, j'ai trop de travail malheureusement pour pouvoir venir dans la rue.
Moi aussi, j'en ai du travail. Donc, je fais 6 jours sur 7.
Moi,
vous vous rendez compte que je me prends des grenades de désencerclement. Je vis la guerre tous les 5 minutes. C'est ça qui se passe dans la rue aujourd'hui. Je vis la guerre. Vous vous rendez compte?
Parce qu'il y a des gens qui sont devenus extraordinairement agressifs. Et si vous pensez que...
Vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord avec cette réforme des retraites.
Il l'a convié à l'Élysée. « Je vous dérange, je vous dégage une heure », a répondu Emmanuel Macron à cette dame qui a désormais rendez-vous avec les viticulteurs. Emmanuel Macron, beaucoup d'inquiétude dans cette profession des viticulteurs qui exporte 40% de sa production, les sanctions américaines, les droits de douane aux États-Unis, le Brexit par ailleurs. Alors, il tente, Emmanuel Macron, de rassurer, rassurer toujours. C'est le leitmotiv du chef de l'État aujourd'hui.
Merci Julien Fautra. Emmanuel Macron, il boit du lait, c'est qui le patron?
Ben, je crois que oui, parce qu'il en avait parlé à la fin des EGA, en disant que c'était une initiative de consommateurs à suivre. Alors, ce qui est un peu étonnant, on imagine qu'il est de bonne volonté, mais c'est que, en ayant fait une loi qui s'est inspirée du système de C'est qui le patron, on n'a pas vu ce ruissellement, finalement, jusqu'au producteur, ou pas assez. Donc, c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi quelque chose qui marche dans la société civile, qui devient une loi, ne se répand pas plus favorablement partout?
Bon, on va y revenir, évidemment, au cours de ce journal inattendu. Dans l'actualité, il y a également un deuxième décès, dû au coronavirus en Italie, annoncé ce matin, une femme de Lombardie, dans le nord du pays, hospitalisée depuis une dizaine de jours. Hier déjà, un retraité italien de la région de Venise était décédé. 15 autres cas ont été annoncés. Les bars, les écoles et de nombreux lieux publics ont été fermés dans une dizaine de villes du nord du pays. On marque une courte pause et puis dans un instant, direction Fessenheim avec le baroud d'honneur des élus.
Le journal inattendu de Nicolas Chabanne en direct du Salon de l'Agriculture.
Vincent Parizeau.
Dans le studio RTL installé sur le stand des fruits et légumes frais, nous sommes dans le pavillon 2-2 au Salon de l'Agriculture. L'actualité, c'est évidemment aussi l'arrêt du premier des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il s'est donc déroulé comme prévu la nuit dernière, avant l'arrêt du second qui est déjà programmé pour le 30 juin. Alors certains salariés avaient menacé de désobéir, de ne pas appliquer les procédures, mais finalement tout s'est déroulé normalement. La fin définitive de Fessenheim est donc en train de s'écrire. Et pourtant, les élus locaux ne désarment pas Samuel Goldschmidt.
Oui, ils avaient coiffé des bonnets rouges ce matin en mémoire du mouvement de protestation breton de 2013. Et c'est ainsi, rougis et ceints de leurs écharpes tricolores, qu'ils sont venus manifester devant l'entrée de la centrale et entourer le premier concerné, Claude Brender, le maire de Fessenheim.
C'est que la première étape aujourd'hui d'un combat qui malheureusement se termine d'un côté, mais qui continue sur un autre axe, celui de la survie de nos territoires.
Le 30 juin, ce sera l'extinction du deuxième réacteur. Cette nuit, Jean-Luc Cardozo, technicien d'exploitation et également représentant CGT, a participé à l'extinction de la tranche numéro 1.
Là, effectivement, c'est la dernière fois. Les agents qui étaient concentrés, qui ont fait les actes qu'ils avaient à réaliser conformément aux procédures, en respectant toutes les règles qu'ils avaient à respecter. Et ils ont fait ça de façon entre guillemets collective. C'est une personne qui réalise l'acte du découplage, mais c'est un acte collectif.
L'Alsace a donc perdu cette nuit d'un coup l'équivalent de 30% de ses besoins annuels en électricité.
Le sport avec tout d'abord un grand rendez-vous pour le 15 de France cet après-midi, le tournoi Destination. Les Bleus qui avaient 2 victoires sont en tête du classement. Ils vont tenter un 3e succès face au Pays de Galles, mais à Cardiff où ils n'ont pas gagné depuis 10 ans. Ça ne sera pas de la tarte, d'autant que la plupart des joueurs n'ont jamais joué à Cardiff. Il n'y en a que 2 qui connaissent cette terre galloise. Les autres ne la connaissent pas. C'est le cas de Paul Willems, le deuxième ligne d'origine sud-africaine.
Ce sera notre première fois, ce sera une bonne expérience pour toute l'équipe, parce qu'on sait que ce sera un très grand match.
C'est pas un peu effrayant quand même? On n'a pas un petit peu peur?
Non, c'est très excitant, c'est notre nouvelle histoire qu'on veut construire, donc oui, c'est une opportunité pour nous. mais on sait que ce sera très grand. Moi, quand je sors le terrain, je veux que le mec il me respecte. Et c'est ça mon objectif. Je veux que le mec il savoir qu'il a joué contre le bon joueur.
Voilà, Paul Willems au micro RTL de Jean-Michel Rascol, Pays de Galles, France à 17h45. Vous êtes fan de rugby, Nicolas Chaban?
Ouais, vraiment. Ouais,
c'est vrai. Donc derrière l'équipe de France.
Bah ouais, mais on n'avait pas battu l'Angleterre depuis longtemps. Vous avez signalé que le Pays de Galles, c'est difficile, mais cette année, tout devient possible.
Ouais, c'est vrai qu'on la reconnaît pas, cette équipe de France, après celle qu'on avait vue ces derniers mois. Hein. Elle s'est métamorphosée.
Il y a des jeunes. Ouais. Et les jeunes, ça n'a pas la pression des anciens quand on joue notamment dans des temples comme à Cardiff.
C'est vrai que Sébastien Chabal est un grand fan de ses kills patrons.
Oui, c'est quelqu'un qui nous aide en coulisses. Voilà des gens qui parlent peu et qui font de très belles choses. Je pense à une initiative qui s'appelle le Gang des Grands-Mères. Il aide les anciens à avoir des revenus complémentaires. C'est quelqu'un de bien, Sébastien Chabal.
Un mot de foot, 26e journée de Ligue 1. Lyon s'est refait un moral en allant gagner à Metz 2-0. Nice et Brest ont fait match nul de partout. À 17h30 à suivre, Marseille qui reçoit Nantes. Et puis ce soir, 4 autres rencontres dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France.
Le reportage inattendu.
Alors ce reportage inattendu, c'est évidemment celui que vous nous avez demandé, Nicolas Chaban. Reportage sur l'association Solidarité Paysan. Pourquoi ce choix ?
Parce qu'il y a des acteurs comme ça, évidemment, qui travaillent dans l'ombre. Pour les avoir rencontrés, et on s'était retrouvés, grâce d'ailleurs à Édouard Bergeon, le réalisateur de film Au nom de la Terre, qui avait rassemblé tout le monde. Et j'ai vu des gens, j'en connais beaucoup de bénévoles, mais là, ce sont des gens qui bossent sur un sujet tellement délicat. Un suicide par jour pour les producteurs en France. Un poids énorme des générations précédentes. Quand on est la 4e génération, on a du mal à reconnaître qu'on va peut-être arrêter l'activité, et ça finit très mal. Et voilà une association qui fait un boulot fabuleux.
Alors, nous sommes allés à la rencontre de l'association Arcade, qui est l'antenne du Nord-Pas-de-Calais de ce réseau, implanté à Ambricourt. Reportage inattendu, Franck Hanson.
Dans son exploitation laitière, Nicolas n'en pouvait plus, coincé entre ses problèmes financiers et d'autres soucis personnels. Un jour, il a décroché son téléphone. Aujourd'hui, il vient faire le point sur son dossier au siège de l'association Arcade, l'antenne nordiste de Solidarité Paysan.
Et Jean-Marie, ça va ? C'était très difficile de prendre cette décision parce que c'était un peu un aveu d'échec. Au départ, c'était des problèmes de trésorerie. Ça devenait compliqué. Quand on est exploitant agricole, surtout dans l'élevage, on ne peut pas s'arrêter. Et on ne peut pas en parler aux collègues parce qu'il y a une part de honte et il y a une part de peur d'attirer les convoitises concernant l'exploitation. On a pris un rendez-vous, on a appris un peu à se connaître au fur et à mesure du temps. Et puis ben, aujourd'hui, c'est des véritables équipiers de l'exploitation.
À Ambricourt, dans le Ternois, l'association est implantée sur le site d'une ancienne ferme. Un accompagnement administratif, parfois, mais surtout humain, sans juger. Les salariés, comme les bénévoles, sont issus du milieu agricole. Jean-Marie Lebrun, le président.
La première rencontre qu'on a fait chez Nicolas, mais comme chez les autres personnes, c'est d'écouter. Il faut essayer de comprendre comment la personne, elle peut rebondir. Qu'est-ce qu'il y a comme atout sur la ferme ? Parce que chez chacun, il y a des atouts. On peut regarder les différents domaines, que ce soit l'aspect juridique, technique, administratif aujourd'hui, qui pèse beaucoup aussi dans les exploitations, mais on ne va pas faire à la place.
Père de 3 enfants, 45 ans, Nicolas a trouvé une épaule sur qui s'appuyer, lui qui préfère préserver ses proches.
C'est un peu mes fusibles, quand ça va pas, je prends mon téléphone, je mets un message, souvent c'est à Jean-Marie.
On a une certaine complicité qui permet de comprendre entre ce qui est dit et ce qu'il y a derrière.
Je fais face maintenant, et j'ai changé beaucoup de choses dans mon exploitation grâce à une reprise de confiance en moi.
Vous avez eu des idées noires? Entre guillemets.
Plus d'une fois, oui. J'ai des enfants, je leur aurais pas fait ça, mais ça m'a traversé l'esprit plus d'une fois.
3000 familles d'agriculteurs sont accompagnées chaque année au niveau national, dont 400 dans le Nord-Pas-de-Calais. Les appels se sont accélérés récemment, confirme Nathalie Ducrot, l'une des salariées d'Arcade.
Depuis 4 ans à peu près, où il y a eu une augmentation des appels, mais ça vient de la crise du lait et la crise de la viande, des prix. Il vaut mieux être issu du milieu pour comprendre tout ce qui se joue dans le milieu agricole. Dans l'association, il y a aussi des bénévoles qui ont eux-mêmes été accompagnés et qui, voilà, maintenant sortis des difficultés, accompagnent d'autres agriculteurs.
Confidentialité, respect sont les maîtres mots du réseau Solidarité Paysan. C'est une démarche personnelle, insistent ses animateurs. Il est toujours temps d'appeler.
Reportage signé Frank Hanson. Il y a plein de choses très intéressantes, remarquables dans ce reportage. Mais à la fin, il dit confidentialité et respect. Parce qu'il y a aussi l'esprit paysan qui est important, qu'il est important de respecter.
Oui, il y a de la pudeur. Voilà. Donc évidemment, quand il y a de la pudeur, c'est pas facile d'en parler. Mais il faut vraiment donner des moyens à Solidarité Paysan qui en manque. Il y a énormément de boulot. C'est un peu une part de nous qui est chez tout le monde, là, côté agriculteur. On a eu des grands-parents agriculteurs. Il faut pas les laisser tomber. Bien au-delà d'une simple profession, ce sont des gens qui sont un peu inscrits dans notre patrimoine. Et Solidarité Paysan, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez peut-être apporter du soutien, du bénévolat et des moyens financiers. Ça va être vraiment très bien investi pour des bonnes raisons.
Voilà, donc merci en tout cas pour ce reportage inattendu. Ce qu'on va faire, Nicolas Chaban, hein, c'est marquer une petite pause dans votre journal inattendu. Et puis dans un instant, on va s'intéresser à vous.
Le journal inattendu sur RTL. Avec Nicolas Chaban et Vincent Parisot.
Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Il faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si l'on veut que la terre tremble, il faut qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus un plus un plus.
Ensemble, on a reconnu évidemment Sinclair. Voilà, au-delà du groove, parce que j'ai cru comprendre que vous aimez bien le funk, la soul et la musique qui bouge. Il y a bien sûr le message, qui est un peu le fil conducteur d'ailleurs, ce que vous avez fait jusqu'à présent, si je comprends bien. Ensemble.
Ouais, ben ensemble, on peut absolument tout changer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ouais. On n'a plus besoin d'attendre que quelqu'un le fasse pour nous. On se parle, on parle à son voisin, on se rend compte qu'on a finalement un bon sens collectif. Un peu de bienveillance collective. Mmh. Et quand on s'en parle un sujet, comme ça a été le cas pour C'est qui le patron, ça devient des résultats que personne n'a jamais rencontré avant. Donc, vous voyez, il y a un bel espoir à faire les choses, évidemment, ensemble. Mmh.
Alors, c'est un journal inattendu un peu particulier, évidemment, en direct du Salon de l'Agriculture. Nous sommes, je vous le rappelle, installés sur le stand des fruits et légumes frais au pavillon 2-2. Et les fruits et légumes, ça vous connaissez bien, les fraises, les légumes moches, comme on a dit, ce sont vos premiers faits d'armes.
Voilà, alors d'abord, des très bons fruits et légumes, on avait mis la photo des producteurs, ouais, en échange de 30% de rémunération en plus. Et puis un jour, on a appris, et ça nous a tellement sensibilisés, qu'il y avait beaucoup de produits gaspillés, et notamment pour des défauts d'aspect. Mmh. Pour que tout le monde se rende compte, on parlait de rugby là tout à l'heure, chaque année, ce qui est gaspillé, alors que ça pourrait finalement aller dans un estomac humain en France, c'est le Stade de France rempli à ras-bord. Le Stade de France rempli à ras-bord. 10 millions de tonnes. Voilà ce qui pourrait évidemment être peut-être offert, au moins, ou vendu moins cher. Et c'est comme ça que sont nés les gueules cassées. Et ça continue et il faut limiter ce gaspillage qui est une aberration totale.
Mmh, c'est un vrai succès, les gueules cassées, parce qu'il n'y a pas de raison de jeter une carotte parce qu'elle est tordue.
Ouais, une carotte, mais vous savez qu'il y a des camemberts gueules cassées parce que si la robe est un peu tourmentée, pas parfaitement droite, en dehors du cahier des charges, il y a des céréales qui par tonnes sont jetées parce que l'ordinateur voit ce que l'œil humain ne verrait même pas. Mmh. Un petit millimètre de plus ou de moins, une teinte différente. Mmh. Donc c'est aberrant, on peut récupérer cette nourriture et aussi finalement la vendre moins cher. Encore une fois, c'est 30% moins cher les gueules cassées. Donc ça fera plaisir à tout le monde.
Alors la semaine dernière, c'est l'humoriste Vincent Madénian qui était à votre place, alors pas ici même, hein, nous étions dans les studios d'RTL à Neuilly. Et il vous a... J'ai dit Vincent Madénian, Mathieu Madénian évidemment. et il vous a posé une question. Alors, c'est tout simple et c'est très court. Écoutez.
Salut Nico, c'est Mathieu Madénian. Alors, il paraît que tu bosses dans le lait. Alors, j'ai une question. C'est quoi cette bouteille de lait?
Voilà. Référence, bien sûr, à cette pub des années 90 qui a marqué les esprits, qui a d'ailleurs même été beaucoup détournée, même par les nuls. Je ne sais pas si vous l'aviez vue. Mais en même temps, la question n'est pas... C'est quoi ce pack de lait bleu, rouge ou vert avec écrit « C'est qui le patron ?» Parce qu'il n'y a pas vraiment de marque.
Mais non, vous voyez, c'est vrai que les agences de com nous ont dit, mais on voit bien que le logo n'a pas été fait par la plus grande agence de com de l'histoire, mais c'est pas ça le plus important. Mmh. Ce lait rémunère au juste prix son producteur.
Mmh. C'est ça le message?
C'est le message fort qui a été créé, donc rappelons qu'on est une coopérative, on peut tous devenir sociétaires, et on se rassemble côté consommateur, et on défend cette idée simple que pour quelques centimes de plus, il faut que je le rappelle, il faut rajouter 4 euros par an pour que ces achats passent de involontairement alimentant un système qui est pas équitable pour le producteur à protection du producteur. Donc il faut absolument qu'on se rassemble autour de sujets de ce type. C'est vrai que le logo n'est pas très joli, mais les valeurs dedans sont vraiment très belles.
Mmh. Plus de 14 millions de consommateurs. Écoutons un couple d'éleveurs, Anne-Cécile et Jean-Noël. Ce sont des associés de C'est qui le patron dans la Somme. Ils nous expliquent ce que ça a changé pour eux.
Nous sommes installés depuis le 1er janvier 2016.
On a fait 10 mois dans la misère.
Ouais.
On peut dire dans la misère. Depuis que le consommateur a commencé d'acheter le lait C'est qui le patron, pour nous, c'était rassurant tout de suite. La première paye, si on peut dire, qui est arrivée chez nous.
C'était une sorte de fierté parce qu'on s'est dit, enfin, les consommateurs, ils jouent le jeu de nous acheter notre lait au bon prix. Et du coup, ça nous a rassurés de se dire que ce qu'on faisait, c'était pas à côté de la plaque, quoi.
Nous, on engraisse nos vaches à l'herbe. Le bien-être animal, nous, c'est déjà notre premier objectif. Et niveau économique, c'est irréprochable. Parce que nos vaches vont pâturer la prairie de Somme avec une herbe tellement diversifiée qu'ils vont s'engraisser toutes seules.
Voilà, et on a l'impression qu'en plus d'être mieux rémunéré, ça permet d'avoir un lait plus...
Oui, de qualité, ouais.
De meilleure qualité.
Ah ouais, c'est ce
votre lait est de meilleure qualité que les autres.
On a découvert ça en bonus, le lait qu'on a créé tous ensemble là, sur Internet. Il est équitable, mais quand on rajoute des centimes, le producteur peut faire pâturer plus longtemps ses vaches, les fourrages deviennent locaux, on enlève les OGM de l'alimentation. Donc, encore une fois, l'équité à une petite sœur directe, c'est la qualité. Donc, je les connais bien, les témoignages, il y en a beaucoup sur Internet, allez les voir. Parce qu'on vérifie aussi, en créant le lait, que les centimes vont bien jusqu'au producteur. C'est ça le travail de C'est qui le patron.
Alors voilà, on va en parler jusqu'à 13h. Hein, vous êtes le rédacteur en chef de ce journal inattendu, jusqu'à 13h30, puisqu'il est 13h. Donc, on va marquer une pause avant de rappeler l'info, et puis avant d'accueillir ici même en direct au Salon de l'Agriculture sur le stand des fruits et légumes frais, Édouard Bergeon, le réalisateur du film événement Au nom de la Terre, 2 millions de spectateurs en France. Et puis on accueillera aussi un futur jeune agriculteur qui s'apprête à reprendre l'exploitation de son père. Ils seront là tous les deux. À tout de suite sur RTL en direct du Salon.
Nicolas Chaban, Vincent Parisot. Nicolas Chaban, Vincent Parisot.
Le temps passe vite au salon, il est 13h02.
Le journal inattendu de Nicolas Chaban.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Mais l'actualité, elle se déroule ici même, sous nos yeux, avec ce public qui nous fait le plaisir de venir nous voir ici même, en direct, donc, pour ce 57e Salon de l'Agriculture, dans le hall de 2. On est au stand des fruits et légumes. Emmanuel Macron également est dans les murs. Le président est entré dans le vif du sujet dès son arrivée ce matin, face à des agriculteurs inquiets de leur avenir, au cœur des débats, les pesticides, la PAC et notamment les retraites. À noter d'ailleurs au passage une bousculade au moment de l'évacuation de quelques gilets jaunes qui voulaient se mêler à la pérégrination présidentielle. L'agriculture, évidemment, on va y revenir dans un instant. C'est le journal inattendu de Nicolas Chaban et on va recevoir Édouard Bergeon, le réalisateur d'Au nom de la Terre. Dans l'actualité également, Fessenheim, c'est le jour d'après. Le premier des deux réacteurs de la centrale s'est arrêté définitivement la nuit dernière. L'Italie face au coronavirus, un deuxième décès a été enregistré en quelques heures dans le pays qui annonce une trentaine de contaminations. L'espoir d'un grand coup pour l'équipe de France de rugby cet après-midi face au Pays de Galles. Les Bleus vont chercher une troisième victoire à Cardiff, où ils ne se sont plus imposés depuis 10 ans. Le foot, Lyon s'est donné un peu d'air hier soir en battant Metz. Nice et Brest ont fait match nul. L'OM accueille Nantes à 17h30. 4 autres matchs ce soir dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis alors, le meilleur, c'est toujours pour la fin. Nicolas Chaban, vous êtes monsieur météo.
Ah, alors.
Bah oui, c'est à vous de jouer.
Et bien sûr,
il n'y a pas que le lait dans la vie, il y a aussi la météo.
Avec plaisir. Alors, après-midi ensoleillé sur les trois quarts du pays, à l'exception des régions proches de la Manche, qui connaîtront un ciel plus chargé, avec des vents assez forts et quelques gouttes de pluie entre le Cotentin et le Pas-de-Calais. Les températures iront de 11 à 18 degrés du nord au sud. Il fera 14 à Paris et Mâcon. Et bien sûr, un peu plus chaud chez nous dans le sud, 16 degrés à Mormoiron. Je crois que c'est la première fois peut-être qu'on cite ce village de 3000 habitants, mais merci à RTL, voilà, Mormoiron dans le Vaucluse.
Au pied du Mont Ventoux.
au pied du Mont Ventoux.
Ça veut dire que quand vous ouvrez les fenêtres le matin, vous avez la vue sur le Mont Ventoux.
Voilà, une rivière et le Mont Ventoux derrière.
Mais vous avez beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Montmoiron, par exemple?
Ah, Montmoiron, c'est l'endroit effectivement où je m'isole le week-end, puisque maintenant je viens pas mal de temps à Paris pour ses culpatrons et d'autres activités. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a une petite fenêtre là-bas. On me demandait mais comment ces idées arrivent. Ouais. Eh bien, le soir, on se réveille, on se dit mais attends, c'est une évidence, il faut qu'on crée une marque de consommateur. Et à chaque fois, c'est la même fenêtre, face au Ventoux. Et voilà, donc je passe un petit bonjour à tous les habitants de Montmoran.
Et nous aussi. On est donc ensemble jusqu'à 13h30 en direct du salon dans le journal inattendu de Nicolas Chaban, le créateur de la marque C'est qui le patron. On va recevoir son invité, Édouard Bergeon, le réalisateur du film Coup de poing, hein, on peut dire ça, Au nom de la terre. Un mot sur lui avant de l'accueillir. Pourquoi il était évident de l'inviter?
Déjà, je suis très heureux parce que il voit tellement de journalistes que je me suis demandé s'il allait encore avoir un peu le temps de venir nous voir. Mais Édouard, c'est d'abord le réalisateur des Fils de la Terre. Allez voir ce documentaire. Fils de producteur, donc il connaît cette réalité.
C'est avec ce documentaire d'ailleurs que tout a démarré et que l'histoire du film a démarré.
Je le laissais parler, mais c'est quelqu'un qui nous aide énormément. Voilà, des gens encore qui parlent pas tous les jours dans les médias, mais qui font beaucoup de choses. D'ailleurs, comme l'acteur principal du film, Guillaume Canet, qui nous aide en coulisses. Et tout à l'heure, il y aura même une petite surprise. Je laisse à Édouard le soin de l'annoncer.
On n'en dit pas plus. Et avant d'accueillir, évidemment, Édouard Bergeon, on se replonge un instant dans ce film qui vient de sortir en DVD.
Et voilà le propriétaire des Grands Bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Monsieur Bergeon, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
T'es quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein.
Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système...
T'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi, au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde.
Faut s'en sortir, t'as qu'une seule solution, c'est de partir.
Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois.
C'est fini, les grands bois. Si tu passais.
Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ici au salon. Au nom de la Terre est sorti donc il y a quelques jours en DVD après avoir été vu en salle par 2 millions de spectateurs en France. Tout d'abord une précision, 2 millions de spectateurs en France et combien à Paris?
À peu près 116 000.
C'est incroyable.
Un rapport de 1 à 18 en fait.
Alors qu'en général, c'est pas le contraire, mais on va dire que...
La moitié des entrées à Paris, voire plus.
Ouais. Voilà. Comment vous expliquez ça? Ça n'intéresse pas les urbains?
Ouais, je pense, c'est une sorte de fracture. Est-ce que le combat d'un héros du quotidien qui investit dans son outil de travail pour faire vivre sa famille, ça parle à des citadins? Voilà.
En tout cas, bon, c'est évidemment maintenant le DVD qui se vend déjà, j'imagine.
Vous savez,
très
le DVD,
bien,
c'est
beaucoup plus ailleurs qu'à Paris.
Dit que le DVD n'existe presque plus. Hein, c'est un outil qui devient presque obsolète. Je sais pas si vous avez un lecteur d'ailleurs encore.
Ouais, ça se fait de moins en moins. Hein.
Mais ouais, on a édité 60 000 et les deux premières semaines, ça démarre très très fort. Avec la VOD, on est à 40 000 ventes et voilà.
Réalisateur, hein, Édouard Bergeon, mais aussi journaliste. C'est d'ailleurs votre documentaire, on le disait, Les Fils de la Terre en 2012, couronné par de nombreux prix qui a tout déclenché. Et puis Au nom de la Terre, qui sera au César, avec notamment Anthony Bajon, nommé dans la catégorie
Meilleur espoir masculin.
Vous-même, pour le meilleur premier film.
Oui, moi-même, puis Anthony qui joue mon rôle.
Voilà, bien sûr. Donc finalement, vous êtes nommé deux fois. Le prix du public.
Ouais, le César du public. On fait partie des 5 plus gros scores de films français.
Et vous auriez aimé, j'imagine, que Guillaume Canet soit nominé.
Je pense que Guillaume, qui porte littéralement ce film, qui chaque matin chausse les bottes de mon père, j'aurais bien aimé qu'il soit nommé dans la catégorie des meilleurs comédiens. Enfin, je pense qu'il avait sa place, mais. Voilà, c'est un film que peut-être la profession ou Paris a peu vu, donc on fait nos gros scores en région. Il y a certains cinémas qui éclatent leur record avec des entrées plus grandes que celles de Titanic, par exemple. Ouais.
Alors évidemment, ce film, c'est un drame. C'est l'histoire de votre père, exploitant agricole dans le Poitou, qui va finir par mettre fin à ses jours lorsque vous aviez 16 ans. Donc Guillaume Canet, votre père à l'écran. On vous retrouve sous les traits d'Anthony Bajon. Incroyable, je le disais. C'est un hommage. J'imagine qu'une fois le film terminé, terminé, au moment de la première projection, vous avez dû passer par toutes les émotions, parce que évidemment c'est votre vie, c'est la vie de votre papa, et puis c'est un hommage à tous ces agriculteurs qui sont morts. On disait tout à l'heure avec Nicolas Chaban, un par jour.
Et de l'aveu même du ministre de l'Agriculture, ces chiffres sont sous-estimés.
Ah, ce serait plus,
ça serait plus qu'un par jour. Mais comme l'institutionnel n'arrive pas à endiguer tout ça, et que l'associatif, justement, Solidarité Paysanne, on en a parlé, est le seul aujourd'hui acteur de la prévention et de l'accompagnement, ça fait froid dans le dos. Ouais. Quand j'ai découvert ce film, moi je l'ai fabriqué, donc c'était de voir les autres le découvrir qui était vraiment émouvant.
Et puis votre famille, j'imagine aussi.
Ouais, ma famille, c'est jamais simple d'écrire sur sa famille, on vit tous la même histoire, mais on la vit pas avec le même point de vue. Et puis c'est inspiré de faits réels. Si je vous raconte la réalité, elle est 10 fois pire que dans le film. Et je pense que déjà dans le film, ça suffit pour raconter ce qu'est un drame dans une famille. Parce que quand un agriculteur ou une agricultrice part, il reste des familles, et il reste des plans de redressement judiciaire à payer quand il y a des dettes. Et c'est un rouleau compresseur derrière. Ma mère est toujours pas à la retraite parce qu'elle a continué, elle a dû continuer à payer un plan de redressement judiciaire derrière. Quand on parle de retraite, vous savez quel est le montant de la pension de reversion de mon père, lié à mon père, c'est 200 euros net par mois. Vous savez quel est le montant d'une retraite d'une agricultrice, c'est 800 euros. D'un agriculteur, c'est 900 euros. Et pour le coup, dans la réforme de la loi des retraites, crois que ça va monter un petit peu.
Voilà, normalement, ça serait 80% du SMIC. Ça serait.
On serait à 1000 euros. Ouais. Et quand on passe de 800 à 1000 euros, c'est 200 euros, mais c'est 200 euros, vous le confirmerez.
C'est pas rien.
On se dit que les agriculteurs se font un outil de travail capitaliste, mais c'est fini, ça, on n'est plus dans les 30 glorieuses. Et quand on a travaillé 70 heures par semaine, vivre avec 800 euros à la fin du mois, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté qui est à 1044 euros, je crois, c'est juste pas normal. Faut pas oublier que l'agriculteur, son rôle premier, c'est de nourrir la France. Et puis si on enlève les agriculteurs, il y a des problèmes d'aménagement du territoire, des problèmes d'environnement. Et puis,
est-ce que vous pensez, peut-être que votre film y contribue, que le regard de la société est en train de changer sur ces éleveurs, ces agriculteurs? Est-ce qu'on peut continuer comme ça à leur taper dessus, à faire de l'agribashing, à leur dire, à tout leur reprocher, à leur dire...
Faut faire de l'agri-loving plutôt.
Ouais.
On
est là pour ça.
C'est à des citoyens, à des ambassadeurs comme Nicolas Chaban de se lever et de montrer une voix et de les aider et pas de leur taper dessus. Il y a trop d'associations, par exemple écolo, qui ont tapé sur la gueule des agriculteurs pendant des années. J'ai rien. Et heureusement qu'elles sont là, ces associations. Mais à un moment donné, faut plutôt se dire, hop, on y va avec le gouvernement. On y va, on met des mesures en place. Et puis, on vous aide à changer de modèle et on vous éduque différemment. Parce que voilà, si à un moment donné on leur tape dessus, c'est quand même juste anormal. C'est irrespectueux de leur mission première.
D'ailleurs, la nouvelle génération, si on continue.
Nicolas Chaban, Edouard Bergeon, écoutez ce que disait Guillaume Canet, qui était venu parler sur RTL de ce film au moment de sa sortie. Écoutez ce qu'il disait.
Ça raconte très très bien à quel point aujourd'hui il est très très difficile pour un agriculteur de s'en sortir face au système, face à la volonté des industriels, de l'économie, de pas pouvoir faire de la qualité, parce que s'ils veulent faire de la qualité, il faut qu'ils la payent de leur poche, parce qu'eux, ils sont pas rémunérés pour cette qualité. Aujourd'hui, on les traite d'empoisonneurs, alors que c'est les premiers empoisonnés. Et le film parle de ça, en fait. Cette situation inextricable dans laquelle se retrouvent les agriculteurs aujourd'hui. Et le film est formidable parce qu'il n'oppose absolument pas les agricultures. L'idée n'est pas de montrer du doigt l'agriculture conventionnelle par rapport à l'agriculture bio. Il ouvre à plein d'autres sujets, comme le fait aussi que nous, en tant que consommateurs, on est notre responsabilité aussi là-dedans. Qu'on soit du milieu du rural ou pas, en fait, qu'on soit agriculteur ou pas, on a tous une assiette devant nous. Cette assiette, c'est les agriculteurs qui la remplissent. Et c'est notre santé aussi. Donc on a tous notre responsabilité là-dedans à décider, en fait, de ne plus vouloir manger certaines choses.
Alors ça, je sais que ce que vient de dire Guillaume Canet, ça doit résonner à vos oreilles, Nicolas Chaban.
Énormément. Alors, encore une fois, rappelez que Guillaume Canet n'a pas fait que le film. Il est tous les jours au cœur de ce combat, et même en coulisses, d'ailleurs. Il fait beaucoup de choses. On a tous un bulletin de vote extraordinaire dans la poche, ça s'appelle la carte bleue. On peut, en choisissant d'acheter des produits équitables, qui protègent les producteurs, qui limitent l'impact négatif environnemental, changer les choses. Il faut pas qu'on se prive de ce pouvoir immédiat qu'on a.
Je voulais exactement dire ce que dit Nicolas. Guillaume, il continue de défendre avec moi tout ce film, mais les valeurs qu'il a, c'est un fils de la terre, Guillaume, qui a grandi proche des chevaux. Il sait faire, il faisait les foins, il faisait les box, il sait conduire un tracteur. J'ai pas eu à lui apprendre à conduire un tracteur ou la moissonneuse, si ce n'est en 10 minutes pendant le film. Et c'est pas un hasard s'il défend le rôle inspiré de mon père, Pierre Jargeau, dans le film. C'est un comédien populaire. On a fait 2 millions d'entrées et ça va peut-être être confirmé par les agriculteurs qui sont à cette table-là. Ils ont été tellement fiers, les agriculteurs, que Guillaume Canet, un comédien populaire, les représente et défende leur combat. Et sans faire de, justement, d'agribashing ou sans opposer les agricultures, la chimie, le conventionnel contre le bio. Non, c'est pas ça. Bien sûr qu'il faut être plus vertueux. Bien sûr, on a tous envie d'être en bonne santé, de manger de la nourriture de qualité. Mais n'opposons pas les agriculteurs les uns les autres. Recousons les liens avec les consommateurs et la terre.
Le père, votre père et puis votre grand-père, hein, joué aussi par Rufus. Je dis ça parce que il y avait qu'un fils de paysan pour montrer toute la complexité de cette vie. Et je pense au rapport avec le père. On voit à la fois la force et la distance de la relation entre Guillaume Canet et Rufus dans le film.
Ouais, c'est, je voulais vraiment montrer cette filiation de paysans, le grand-père, le père, le fils, mais aussi montrer cette évolution du métier, parce qu'on travaille en famille, et même dans sa propre famille, on peut ne pas se comprendre, puisque les grands-parents qui ont construit un outil, qu'on capitalisait dans les 30 Glorieuses, on vendait une vache ou du lait, et on a gagné de l'argent dans les années 70-80. Mais on passe d'une économie de production à une économie de consommation au tournant des années 90, où les consommateurs, où les grandes, où la grande distribution, où les grandes coopératives sont complices d'un, eh ben, d'un manger pas cher, on a tout, tout le temps, quand on veut, avec des cargos qui viennent du bout du monde, avec du fioul lourd détaxé, c'est facile, c'est ça la mondialisation. Mais, c'est quoi la phrase, Nicolas, de la GD? Combien tu vas faire crever de... Ah, on avait entendu ça un jour, c'est un ancien temps, j'espère. Un acheteur a dit à son, le chef des acheteurs, a dit à son acheteur, combien tu as tué, toi, de paysans cette année? Ça lui permettait de voir si c'était un bon acheteur ou pas.
Quelle horreur.
Ça doit être fini. Ça,
bah oui, j'imagine. La filiation, on va y revenir dans un instant parce que parmi les retours du film, qui vous ont touché, il y a celui de Gaëtan Comte qui est, avec nous. C'est un jeune homme qui, je crois, au départ ne voulait pas, pour toutes les raisons assez évidentes qu'on imagine, reprendre, l'exploitation familiale. Et puis il a vu votre film. Et puis, hop, ça a tout changé pour lui. Il a changé d'avis. Eh bien, il sera là avec son père et avec vous, évidemment.
Il y a eu beaucoup de larmes, je crois.
Oui, j'ai l'impression. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Nicolas Chaban et Vincent Parizeau. Nicolas Chaban est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Ah, tu verras, tu verras. Tout recommencera. Tu verras, tu verras. Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés.
Ah, tu verras. Nougaro, encore un de vos choix, Nicolas Chaban. Alors évidemment, encore une fois, le swing, bien sûr, avec la musique de Chico Buarque, mais aussi le message optimiste, ouvert vers l'avenir.
Tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix.
Voilà, exactement. Et ça, ça nous amène directement, puisqu'on est toujours avec Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la terre, à accueillir deux autres invités. Gaëtan Comte, qui est un jeune garçon qui, après avoir vu le film, a changé d'avis et désire maintenant reprendre l'exploitation de son père, ici présent également, son papa autour de cette table. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Le film, ça a été un choc pour vous ?
Bah, ça m'a beaucoup émotionné.
Ouais.
Ça m'a fait, quand j'ai vu le film, je me suis remis dans la tête ce que j'avais vécu certains épisodes et que ça m'a fait beaucoup réfléchir.
Quand vous dites j'ai revécu des choses, c'est-à-dire que finalement ce que raconte Édouard Bergeon dans son film, c'est aussi ce que la ferme familiale a vécu.
Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'il y a eu dans le film, ça se passe à beaucoup d'endroits.
Ouais. Et vous ne vouliez pas le faire. Vous ne vouliez pas la reprendre, cette exploitation familiale, il y a encore un an.
Bah oui, j'avais baissé les bras, je me suis dit...
Vous vouliez faire autre chose, qu'est-ce que
bah,
vous...
Bah j'avais envie plus tard de gagner ma vie, et je voyais que la ferme c'était pas... J'avais pas gagné ma vie avec la ferme.
Et pourquoi aujourd'hui, maintenant que vous avez vu le film, vous dites que vous allez gagner votre vie?
Bah parce que j'ai vu que, comment éviter de tomber dans le panneau et de se rendre compte que... comment éviter les choses.
Et qu'en pense le papa? Est-ce qu'il est inquiet ou plutôt heureux de savoir que son fils va reprendre l'exploitation?
Ben aujourd'hui, déjà pour plusieurs choses, je suis heureux par rapport à tout ça. Bon, c'est vrai que mon fils s'est repris du goût, ben ça, c'est vrai que c'est un encouragement. Mais d'un autre côté aussi, il faut pas oublier que la démarche chez Kilpatron nous a permis de redonner du goût. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier qu'on a vécu des périodes où il faut changer enfin de position. Je pense qu'il faut que les producteurs se remettent un peu en question et d'aller vers cette démarche du consommateur. Il faut qu'on arrête de penser une chose, c'est on met notre produit dans un camion et puis là c'est fini, on s'en fout. Et je pense qu'il faut la démarche chez Kilpatron a ouvert des yeux à une bande, mais il faut qu'encore tout le monde s'implique dans cette démarche pour aller au contact du consommateur, faire des journées d'animation, comment on fait, et présenter nos produits, et pas que penser à produire. Il faut la revalorisation du produit. Et puis ce que je tiens à dire aujourd'hui, on peut le dire avec fierté, c'est quand on reçoit notre paye de lait aujourd'hui, qu'on a une ligne qui marquait c'est qu'il patron avec cette rémunération, et ça il faut qu'on sache le dire aussi aux consommateurs pour qu'ils comprennent bien que quand ils mettent cet argent dans le produit, et ben ils retournent directement à l'éleveur.
Ça se retrouve voilà. Dans votre feuille de paye et ça ajoute pas seulement de la dignité mais
c'est une ligne qui est importante, qui
est essentielle. Ils font la facture de leur produit. Ouais. C'est essentiel.
Et c'est fini ce temps là où on nous impose un prix.
Voilà. Parce que c'est ça le drame. C'est ça le drame aujourd'hui. On peut d'ailleurs en parler avec vous, Gaëtan. Aujourd'hui, on travaille sans savoir à quel prix on va vendre. Il n'y a pas une autre profession, il n'y a pas une autre industrie où on travaille sans savoir combien on va vendre le produit.
Il y a un écosystème agricole avec un centre de gestion, une banque, une chambre d'agriculture. Les chambres d'agriculture, c'est l'État, c'est des conseillers, c'est le banc et l'arrière-banc du ministère qui vous fait des prévisionnels et qui sont capables de prêter à Gaëtan ici présent 500, 600, 800 000 euros dans un outil, par exemple, de vache laitière, sans savoir combien ils vont vendre derrière.
Ouais, on arrive dans un système absurde où il faut, et merci à Gaëtan qui a vu le film, de se dire je reprends l'exploitation. Si ces jeunes agriculteurs en France ne reprennent pas le métier de leurs parents, on va manger des produits du bout du monde et on ne saura absolument pas comment ils sont faits. Donc il faut qu'on les aide côté consommateur à exister.
Thierry, le papa de Gaëtan veut encore dire un mot.
Par rapport à ça, il faut bien se dire que si encore on veut manger des produits de qualité, il faut insister les jeunes dans ces démarches-là pour pouvoir installer des jeunes, parce que ça, à l'avenir, il va manquer de la production.
Ce qu'on va faire, parce que ce débat est passionnant, c'est marquer une petite pause et puis ensuite vous retrouver tous les quatre autour de cette table, évidemment Nicolas Chabanne, Édouard Bergeon, Gaëtan et son papa, pour clôturer ce journal inattendu en direct du Salon de l'Agriculture. Nous sommes sur le stand des fruits et légumes dans le hall 2. Merci de votre présence, je vous salue. On marque une pause, à tout de suite sur RTL.
Journal inattendu. En direct du Salon de l'Agriculture.
Nicolas Chabanne, Vincent Parisot.
Ça, si c'est pas de l'intro, quand même, là, c'est énorme. Et en plus, c'est votre choix, Earth, Wind and Fire, In the Stone. Au-delà de la référence inévitable aux Champs-Élysées de Drucker, c'était le top des musiciens de jazz. Et,
des jazzmen qui ont fait du funk, c'est pour ça que c'est très très bien.
Vous avez beaucoup fréquenté les dance floors quand vous étiez jeune?
Évidemment, vous le voyez à mon physique.
Mais il y a un petit côté chevalier blanc qui arrive, Nicolas Chabanne qui arrive dans le monde de la grande distribution, dans le lait blanc, il arrive comme ça.
En toute simplicité.
Non, mais il révolutionne quand même les modes de distribution et qui permet de faire vivre des producteurs qui sont autour de notre table. Ça leur donne de la fierté.
Exactement. Édouard Bergeon, à l'instant, le réalisateur du film Au nom de la terre. Je rappelle que vous serez d'ailleurs, Édouard, lundi sur RTL avec Stéphane Bern dans À la bonne heure. Et effectivement, on est avec Gaëtan, avec Thierry, son papa. Vous disiez quelque chose de très important, c'est que va y avoir énormément de départs en retraite.
D'ici 10 ans, la moitié de nos agriculteurs français vont partir à la retraite. Et quand il y a 3 départs, il n'y a qu'une installation en face. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On privilégie une agriculture de firme? Alors, l'agriculture de ferme, là, autour de chez nous.
Parce que une des particularités quand même de l'agriculture en France, c'est que ça reste une agriculture familiale, si on compare à d'autres pays, notamment en Europe du Nord.
En Allemagne de l'Est.
Voilà. Et ça, c'est important de le préserver?
Bien sûr.
Ouais.
On devient on est paysan et naïté, on ne le devient pas. On est en famille, on reprend une exploitation qui a été construite depuis des générations. C'est lourd tout ça, mais c'est beau.
Il y a une belle histoire, pardon Edouard, mais il y a une belle histoire qui s'est nouée effectivement autour du film. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui.
Gaëtan, qui voulait arrêter l'agriculture, a vu le film et a dit « Ok, je continue, les consommateurs sont avec nous, il faut qu'on reprenne notre destin. »
Je crois d'ailleurs, Edouard, que vous avez une petite surprise pour Gaëtan, non?
Ah ouais.
C'est ce qu'on m'a dit. C'est le
Père Noël est passé.
C'est le petit doigt qui me l'a dit pour Gaëtan et je crois surtout pour la maman de Gaëtan.
Voilà, mais je peux expliquer peut-être.
Qui a besoin de tout notre soutien en
voilà,
ce moment.
Voilà, Sylvie, on pense bien à elle. Effectivement, elle voulait une dédicace de Guillaume Canet.
Voilà, voilà. Donc le DVD.
DVD du documentaire qui a inspiré le film Les Fils de la Terre et le Blu-ray pour toi Gaëtan et on pense fort à Guillaume qui a dédicacé ces DVD pour toi et pour ta maman.
Voilà. Ouais,
merci à vous et merci à Guillaume Canet surtout.
Et ouais, juste un mot Gaëtan, l'exploitation familiale aujourd'hui c'est combien de bêtes par exemple ça représente quoi aujourd'hui votre exploitation?
Aujourd'hui on traite 200 vaches laitières.
Ouais.
Vous êtes deux, hein. Il y a l'oncle et le
trois associés.
Et tu imagines quoi? Excuse-moi, je te tutoie, mais tu imagines la situation? Tu imagines ta situation dans 10, 20 ans, la taille de l'exploitation?
Ben moi, mon but, ce serait de continuer comme on est aujourd'hui, et puis voilà, valoriser nos produits comme il faut, avoir une routine et pouvoir voilà se sortir un salaire et puis vivre comme il faut.
Faire
voilà.
Des bons produits hein, parce que lait est très bon hein, chez les comptes.
En tout cas merci d'être venu ici en direct du salon de l'agriculture sur le stand d'RTL au pavillon 2-2. Merci à Edouard Bergeon.
Merci pour l'invitation.
Bravo évidemment pour le film. On vous souhaite le meilleur pour la cérémonie des Césars avec ses trois nominations.
Merci beaucoup.
Qui vous concernent directement. Merci à Gaël temps et à son papa et puis bien sûr merci à vous Nicolas Chaban. Et au fait c'est qui le patron?
J'ai pas entendu.
C'est qui le patron? C'est moi le patron. C'est moi le patron.
Merci patron.
Allez, belle après-midi à l'écoute d'RTL.
Bonjour à tous les patrons, ce sont les consommateurs. Le patron, c'est le conso. Merci à eux et évidemment, une pensée pour tous les producteurs.
Voilà, c'était Nicolas Chaban, c'était son journal inattendu. Merci beaucoup. Je vous retrouve à 18h en direct, toujours du salon pour les infos. Et tout de suite sur RTL, Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré aujourd'hui à Catherine Deneuve.
RTL. Le journal inattendu.